Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle vivant.
Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Amine El-Mansari, réalisation Thomas Beau. Autour de moi, ce soir, outre Antoine Guillot, Anna Segalevich, Marie-Josée Sirach et Philippe Chevillet, notre affiche Crash Park, La vie du Nil de Philippe Ken, Sœur de Pascal Rambert, Ware Ware no Moro Moro de Hideto à Iwai. Mais on va débuter, je l'ai dit, cette émission par un double hommage, Bernardo Bertolucci, mais aussi j'évoquerai Jean-Loup Rivière. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour la rétrospective Bernard Venet, c'est jusqu'au 6 janvier au Musée d'Art Contemporain de Lyon. Nous avons donc appris ce matin la mort de Bernardo Bertolucci, 77 ans. On va en parler avec Antoine Guillot. Petit rappel pour dire que ce communiste né dans une famille bourgeoise, comme il se doit, fut tout d'abord l'assistant de Pasolini sur Acatone et il travaillera ensuite avec Dario Argento sur le scénario de Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Qu'entre-temps, Bertolucci avait réalisé Prima della Rivoluzione sous influence très forte de la nouvelle vague française. Le conformiste, adaptation de Moravia, après que Godard et lui adapté Le Mépris, mais ça donne pas le même résultat. Le conformiste 70, Bertolucci aborde frontalement, peut-être enfin, des questions de liens familiaux qui seront très présents dans son cinéma, très marqué par la psychanalyse. On va en parler singulièrement par la figure d'Oedipe. Viendront ensuite, on y reviendra, le scandale du dernier tango à Paris, la fresque sur la naissance du communiste Novecento, puis la Luna et la tragédie d'un homme ridicule. On le retrouve, des questions d'inceste, de sacrifice d'enfants et autres joyeusetés. Le sommet public de sa carrière a lieu en 87 avec Le Dernier Empereur, 9 Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. Bertolucci tournera encore 7 films, peut-être on évoquera pour finir, c'est normal, le dernier, mais dans les 7 films post-Dernier Empereur, il y a quand même peu de l'alchimie des années 60-70, mais beaucoup d'auditrices et d'auditeurs ont sans doute apprécié un Théo Sahara, Beauté volée, ou encore Little Buddha.
Oh, bye, bye, bye.
What do you have to say, Mr. Johnston?
The Emperor has been a prisoner in his own palace since the day that he was crowned and has remained a prisoner since he abdicated. But now he's growing up, he may wonder why he is the only person in China who may not walk out of his own front door.
Attention!
I think the Emperor is the loneliest boy on earth.
Nous prend pour d'autres ou quoi?
On est dans un film.
La solitude est lourde, tu sais. Elle n'est pas indulgente. Elle n'est pas généreuse. Elle est égoïste.
On est dans un film. Si je t'embrasse, c'est peut-être du cinéma.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est une longue histoire.
I can be by myself too, you know. Alors tu m'as embrassé. Et tu savais que c'était filmé. Salaud, va. Espèce de traître!
What's the matter?
This is what you call proof of love. Turning me into a freak. One of us, one of us.
It's just
a
game.
One of us, one of us.
It's just a game.
A game, Isabel? A game, think about it. Is this something you do to each other? You want to shave my pubic hair? You want me to be a little boy for you? A little prepubescent Teo at 6 that you can play games with and you could touch pee-pee, touch pee-pee. I'll show you mine, you show me yours. Come on, come on.
Just calm down, we hear you.
Si je te caresse les cheveux, c'est peut-être du cinéma.
Because neither Kit nor poor
Kit et Porte n'avaient jamais mené à aucun point de vue une vie régulière. Ils avaient tous deux commis l'erreur fatale d'en arriver à leur insu à ne pas tenir compte du temps. Les années se ressemblaient et tout en fin de compte pouvait arriver.
Dis-moi, Jeannot, qu'est-ce que tu as fait pendant mon absence?
J'ai pensé à toi jour et nuit et j'ai pleuré. Amour, je ne peux pas vivre sans toi.
Magnifique, coupé, génial!
Bon, ce ne sera pas le jeu de la dispute, mais on aurait pu reconnaître quelques-uns des films mélangés ici par notre réalisateur Thomas Beau pour avoir quelques sons et puis quelques langues aussi du cinéma de Bertolucci. On aura bien compris qu'ils étaient international, c'est ça, il faut garder l'international isé au fur et à mesure de la carrière. Alors, beaucoup de réactions depuis ce matin, Antoine Guillot. La première chose à laquelle vous pensez quand vous avez appris la mort de Bertolucci, c'est quel film ou quelle image ou quel moment ?
C'est deux images en fait qui restent. D'abord une image de Bertolucci lui-même à la fin de sa vie. En fait, c'était il y a 5 ans. Il était venu à la Cinémathèque française pour une intégrale de ses films. Il rentrait à la maison d'une certaine façon puisque il a été très très marqué par la Cinémathèque de Langlois. C'est là qu'il a appris le cinéma et c'est plusieurs fois il lui rend hommage hein, dans Les Innocents. Ça raconte ça. Mais même le personnage de Jean-Pierre Léo dans le dernier tango à Paris est une manière ironique de le montrer. Et tout cloué qu'il soit sur son fauteuil roulant, il avait gardé toute sa faconde, sa virulence, ses colères, sa mauvaise foi aussi. Parfois, il jouait très bien avec son public. Et puis, deuxième image, celle de son dernier film, paradoxalement, qui m'est le plus resté, parce qu'il y a les images monumentales signées Vittorio Storaro, on en reparlera, de l'époque Novecento, Le Conformiste et autres. Mais c'est simplement...
Le dernier film, c'est Moi et toi, c'est en 2012, on ne peut pas dire que ça...
C'est Moi et toi.
C'est un grand événement.
Oui, parce que c'est un film très modeste, tout simplement parce que cloué qu'il était dans son fauteuil roulant, et ben il n'est pas allé à l'autre bout du monde pour faire des fresques luxuriantes. Il a tourné dans un décor qui figurait une cave, et dans cette cave il y avait un adolescent et une jeune femme. Il dansait sur la version italienne de Space Oddity, Ragazzo Solo, Ragazza Sola, et c'était juste magnifique parce que c'était de la pure mise en scène. Comment tourner dans un espace restreint ? Il a beaucoup été marqué par les questions d'enfermement. On pense à l'appartement du dernier tango, la réclusion même du dernier empereur dans la cité interdite, mais là il en tirait toute une théâtralité, parce que son cinéma est très marqué par ça, mais par un simple effet de mise en scène, il nous rendait ces adolescents au bord de l'inceste, comme souvent chez Bertolucci. Parfois, c'est au-delà du bord de l'inceste. Oui. Mais là, il gardait sa limite et il les rendait absolument bouleversants. Et moi, c'est paradoxalement, c'est l'image qui me reste de ce film méconnu, mais qu'il faudrait vraiment redécouvrir.
Alors, Dernier Tango à Paris, forcément, on en parle. On pourra dire double scandale. Le scandale du film à sa sortie, et puis le scandale du sort qui fut réservé à Maria Schneider, volontairement humilié par le cinéaste et par... son partenaire à l'écran, Marlon Brando, qui a évidemment ressurgi grâce au mouvement MeToo, et puis ce livre, dans cette rentrée littéraire de Vanessa Schneider, sur sa cousine, Maria. Il faut dire que Bertolucci n'a exprimé qu'un début de remords après la disparition de Maria Schneider. C'est vraiment un film qui marque de toute son empreinte, pour le meilleur et pour le pire, la vie et l'œuvre de Bertolucci, Antoine Guillot.
Oui, alors c'est paradoxal, parce qu'on se souvient de ce film uniquement à cause de cette séquence appelée Passe-moi le beurre, qui je ne cite qu'un moment du scénario. Tout ça a été beaucoup raconté. Et alors, ce qui est très paradoxal, c'est qu'à l'époque où Marie Schneider elle-même en parle, tout le monde s'en fiche. Quand Bertolucci lui-même en parle dans un entretien en 2013 et commence à raconter de son côté qu'effectivement elle n'avait pas été prévenue, que c'était une machination avec Brando, les gens qui écoutent rigolent un peu, et cette vidéo ressurgit l'an dernier, et là tout d'un coup évidemment tout a changé et ce n'est plus possible. C'est un film qui est très compliqué, le dernier tango à Paris, parce que il y en a un autre qui en sort très mal de ce film, c'est Brando lui-même.
Je me suis senti violé tous les jours sur le tournage.
Parce que Brando ne se met pas seulement nu, il met son âme à nu, il raconte des choses qu'il n'avait jamais racontées avant, il doit les raconter en improvisant, en direct, voilà. Donc on sent que Bertolucci, à ce moment-là, veut capter quelque chose dont la limite serait le snuff movie, c'est-à-dire filmer quelque chose qui advient vraiment, mais c'est une question qui est vieille comme le cinéma. Hitchcock faisait la même chose, Kechiche fait la même chose aujourd'hui, et Piala obtenait ça aussi, c'est-à-dire comment faire qu'un comédien cesse de jouer pour être. Et c'est toute la limite très dangereuse du cinéma et toutes les questions morales que ça donne. Il se trouve aussi que Maria Schneider était quelqu'un qui était très fragile et qu'elle n'a pas pu encaisser ce choc-là. Et ce qui s'est passé après dans sa vie l'a démontré. Donc il faut effectivement être très fort psychologiquement parlant pour encaisser ce genre de choses. Certainement qu'aujourd'hui ça ne pourrait plus se faire comme ça, ou en tout cas il faut une sorte d'accord du comédien pour dire je me livre à toi et tu pourras faire ce que tu voudras. Le problème avec Bertolucci, c'est qu'avec sa morgue et avec sa la haute idée quand même qu'il avait de lui-même, il n'a jamais dit qu'il regrettait. Ce qu'il regrettait, c'était de ne pas regretter. C'est toute la pensée paradoxale, c'est-à-dire je voudrais pouvoir regretter ça, mais j'arrive pas, et c'est vrai que c'est dommage ce qui s'est passé, j'aurais voulu avant qu'elle meure lui dire pardon, mais globalement je pense qu'il continuait à penser qu'il avait eu raison de faire ça. Mais quand on regarde le film, le personnage féminin, c'est celui qui s'en sort le mieux au bout du compte, puisque c'est dans ce rapport sadomasochiste, c'est elle qui le tue à la fin, et pardon pour ceux qui n'ont pas vu le film, qui prend le dessus dans cette histoire de sexe à la Georges Bataille qui est en fait une histoire de mort en permanence.
Bon, il est sorti il y a 46 ans, alors on a quelques excuses. Autre film un peu quand même maudit d'une certaine façon, que les éditions Wildside viennent de ressortir dans une magnifique version restaurée, c'est Novecento 1900 pour la VF, qui reste mon film préféré de Bertolucci, alors notamment parce qu'il y a quand même mes deux acteurs préférés, Robert De Niro et Gérard Depardieu, donc ça c'est quand même déjà quelque chose. On va juste, avant d'en parler, écouter un extrait d'un entretien réalisé pour les suppléments de cette édition chez Wildside, donc c'était filmé au printemps dernier, et Bertolucci parle à nouveau de ce film.
Ça aurait été impossible de faire 900 si j'aurais usé la son direct, parce que c'était impossible. Les acteurs étaient américains, français, italiens, allemands. Le premier montage de 900 était comme la tour de Babel. Et ça aussi me semblait la vérité de ce qu'on avait fait. Et le film a dû sortir, donc j'ai dû équaliser un peu ces différences un peu anarchistes. Il fallait enfin, moi, faire ce film qui se termine avec l'explosion de l'utopie. Les paysans qui font le procès aux propriétaires. À la fin, ils disent « le patron est mort ». Mais on ne le tuera pas pour garder les preuves vivantes que le patron est mort. Il y avait quelque chose de naïf, peut-être, dans ce procès de la fin du film. Peut-être, je pensais, mais de façon très obscure, que le film n'était pas encore terminé, que j'aurais fait un troisième acte de 900, mais c'était plutôt une idée théorique. C'était l'utopie et pour moi, 1900, c'était vraiment la fin de toutes mes utopies. C'est vrai que j'ai des problèmes avec la fin de presque tous mes films, mais c'est très simplement parce que je ne veux pas finir. Je ne voudrais jamais finir le film que je suis en train de tourner. Je voudrais que la chose continue.
Bertolucci, dans ce supplément pour l'édition chez Wildside de Novecento. Alors oui, cette ode à la naissance du communisme, on peut dire que ça a reçu l'accueil qu'il imaginait, Bertolucci, surtout pas du PCI, le Parti communiste italien.
Oui, alors c'est mal tombé partout. C'est-à-dire, c'est vraiment pas le film qui fallait faire. C'est un film qui, d'une certaine manière, continue Prima della Rivoluzione, c'est-à-dire tout le problème psychanalytique et politique de Bertolucci, vous l'avez dit, communiste d'extraction bourgeoise. Donc il profite du succès du dernier tango pour faire cette grande fresque à 5h20 sur la naissance du communisme.
Payé par les majors hollywoodiennes.
Qui payé par trois majors hollywoodiennes avec plein d'acteurs américains. Et tout ça tombe complètement à plat parce qu'il y a trop de drapeaux rouges dedans, magnifiquement filmé par Vittorio Storaro. Donc le film est boycotté aux États-Unis. Le PCI est en rupture avec l'URSS, donc ça marche pas non plus sur le bloc communiste. Et le PCI à l'époque est en plein compromis historique. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas le moment de réveiller les vieux démons. Donc le film est un flop absolu partout, et malheureusement c'est le prototype un peu des grandes fresques historiques des années 80-90.
Il y a eu Reds de l'autre côté de Warren Beatty
et suivant, donc on peut ne pas beaucoup aimer ce qu'il fera par la suite, tout est en germe ici, mais c'est un film extraordinaire, parce que finalement Bertolucci dans le film, il est incarné à la fois par Robert De Niro et par Gérard Depardieu,
c'est-à-dire c'est pas mal.
C'est la schizophrénie politique absolue, et puis il y a Donald Sutherland, génial, le plus beau méchant de l'histoire du cinéma, c'est Donald Sutherland avec ce petit enfant.
Mais il fait tellement peur. Petite réaction, notre représentante du journal L'Humanité pourrait s'exprimer quand même sur Bernardo Bertolucci.
Non, L'Humanité qui est créée à la sortie de 1900, parle d'une grande fresque épique et populaire. Donc L'Humanité salue quand même.
Bravo L'Humanité. Bravo. Quelle indépendance.
Non, pour moi c'est aussi un de mes films préférés. C'est-à-dire que j'ai peu suivi sa filmographie, mais Le Conformiste et 1900, pour moi, il y a quelque chose de très beau. De 1900, c'est vraiment un mélodrame verdien. Il y a une forme narrative très très 19e. Enfin, il y a du Flaubert et puis il y a du Shakespeare. Enfin, c'est assez. C'était un drôle de bonhomme, hein, pas facile, vous l'avez très bien dit Antoine, il regrettait de ne pas pouvoir regretter, c'est-à-dire qu'il était en permanence, mais c'est touchant quand il dit qu'il n'arrivait pas à finir ses films, ça c'est très touchant parce que effectivement il avait envisagé une troisième partie de 1945 à la fin du 20e siècle et il n'a pas eu la force, ni le courage, je pense, ni politique, ni économique, enfin il devait y avoir beaucoup d'éléments.
Ouais, mais il aimait bien être dans ces situations impossibles, visiblement. Bertolucci, un petit mot, Anna Segalevich, sur Bernardo Bertolucci.
Oui, bah moi j'ai découvert ces films bien après évidemment leur sortie et leur fabrication. C'est vrai que je les regarde un petit peu.
Vous n'êtes pas née en 96 non plus, Anna.
Non, pas en 96, mais je suis née dans les années 80 et donc j'ai quand même découvert.
Ils nous ramener,
enfin, les seuls films que j'ai vus adultes à leur sortie, c'est Innocent.
Ce sont pas
et,
des...
et j'avoue que je n'ai pas vu le dernier. Donc.
J'avais tort.
Voilà. Mais moi, il y a un film que je trouve très intéressant de lui qui s'appelle La Luna parce que c'est un film que je trouve très beau, très réussi, c'est un des plus beaux à mon sens. Je l'ai vu il y a un moment, mais il y a notamment, vous parliez Marie-Josée du côté verdien qu'il y a, du mélodrame verdien. Là, dans La Luna, ça agit vraiment dramatiquement. Et donc, voilà, les Italiens ont une histoire avec la musique italienne, avec tout ça. Et dans La Luna, la musique agit vraiment comme outil déclencheur et dramatique. Et il dépasse le côté, vous savez, Oscar Wilde qui dit que la vie s'inspire de la fiction. Là, c'est une mise en abîme de ça parce que la fiction s'inspire de l'opéra, on a le Trouvère, on a le bal masqué, et c'est une façon de mettre en scène la musique comme Visconti l'a beaucoup fait, mais particulière dans ce film de Bertolucci, que je trouve très fort, très juste et très incarné.
Moi, j'ai vu qu'une fois, mais j'en ai en effet un assez fort souvenir.
C'est un très beau film.
Et un petit mot de Philippe Chevillé.
Oui, moi j'étais moins fasciné par Bertolucci que par Fellini, Visconti, Pasolini, enfin tous, je les préférais, mais c'est vrai que je me souviens de cette période des grandes fresques, et notamment de 1900, où j'avais l'impression quand même de voir de grands classiques où je trouvais l'image magnifique. Et ce qui est amusant, c'est que il y a un film que j'avais trouvé raté à sa sortie et qui me reste quand même beaucoup dans la tête et dans le cœur. C'est un Théo Sahara où finalement je me dis, vraiment, le roman de Paul Bowles, il a été un peu trahi. Et avec le temps, je me rends compte que toute la douleur, toute la beauté douloureuse du livre, on la retrouve dans ses plans, dans ses images incroyables, dans ses moments de mélancolie. Et finalement, donc, ce matin, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai un peu revu le film en moi et ça m'a fait du bien de le revoir.
Réhabilitation d'un Théo Sahara. C'est bien, Philippe Chevillé. Antoine Guillot.
Non, mais même dans Le Dernier Empereur, il y a des très beaux moments. Hein. Les moments de cache-cache dans les draps,
quand il est tout petit, quand il est
grand metteur en scène.
Assez sublime. Et puis finalement, il refait la tragédie d'un homme ridicule sous les traits d'un empereur. Donc ça reste passionnant. Mais il y a une pompe, une emphase qui par moments pouvait un peu embarrasser.
Bon, on aura un B comme Bertolucci bientôt dans Plan Large.
Certainement, ça arrivera. En tout cas, Mauvais Genre prévoit une émission entière sur 1900. C'est à venir, donc je vous engage à l'écouter.
C'est très Mauvais Genre. Enfin,
tout Bertolucci.
Dernier Tango, c'était pas mal non plus. Ouais. La Luna, c'est pas mal. Enfin bon, tout Bertolucci. Merci beaucoup Antoine Guillot d'être venu nous voir ce soir.
La Dispute, France Culture. Arne Laporte.
Allez, avant de retrouver le cours prévu de cette émission, quelques mots aussi sur une autre disparition, celle de Jean-Loup Rivière à l'âge de 70 ans. Alors j'ai eu la chance, Antoine, vous aussi, la chance et parfois la difficulté de travailler avec Jean-Loup Rivière. Alors c'était pour moi dans mes années tout arrives, le magazine de la mi-journée de France Culture. La chance, parce que Jean-Loup Rivière, c'était quelqu'un d'une extrême érudition, une grande drôlerie, et puis la relative difficulté, parce qu'il était parfois... on va dire, tout d'un bloc, très affirmé dans ses jugements. Je me souviens, par exemple, d'une passe d'armes très forte entre Jean-Loup Rivière et Alain Françon, en direct à la radio, parce que Jean-Loup avait pleinement assumé d'être parti pendant un spectacle d'Alain Françon. et en donner les raisons au metteur en scène. Vous imaginez la tête d'Alain Françon. C'était, je ne sais pas si vous étiez là, Antoine, ce jour-là, mais ce fut un moment pas très évident à gérer. Vous avez un souvenir de ça ?
Oui, mais c'est des beaux moments de radio. Voilà. C'est le genre d'archives qu'il faut ressortir, parce que c'est un vrai moment où un critique dit franchement...
Je ne peux pas supporter ce que vous montrez sur la violence des pièces de guerre d'Edouard Bond. Et la question de la violence chez Jean-Louis Rivière était particulièrement sensible. Alors, pour mémoire, il avait étudié la philosophie, Roland Barthes étant son directeur de thèse. Il s'était passionné pour le théâtre. Il a été très éphémèrement critique dramatique à Libération au début des années 80. Et puis ensuite, il est entré à la Comédie Française, non pas comme pensionnaire, mais comme secrétaire général, puis conseiller littéraire et artistique de la Comédie Française. Il a également enseigné, notamment en tant que professeur d'études théâtrales à l'École Normale Supérieure de Lyon, et puis au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, où il était devenu chargé de la recherche. Il encadrait les doctorants. Et donc, du coup, c'est au Conservatoire que j'ai rencontré à nouveau Jean-Louis Rivière. Je dis ça parce que c'était un peu comme une deuxième première fois. Il était extrêmement heureux de son travail avec tous les étudiants de cette école et avec les chercheurs. Et je sais qu'il a été un interlocuteur très précieux pour ces jeunes gens. Il y aurait évidemment beaucoup à dire sur lui, mais je voulais ce soir en tout cas saluer sa mémoire, transmettre mes pensées, nos pensées à sa femme, à ses enfants, et puis aussi au personnel et aux étudiants du conservatoire.
N'a-t-il ton île, mon île? Devrons-nous parcourir le monde, divaguer sur les eaux profondes, avec tous ceux qui, comme nous, cherchent encore le paradis? Brisant d'écume, grands oiseaux fous, cette île est belle, tu me l'as dit. Notre île, ton île, mon île. Viens, mon amour, rêver tranquille.
Voilà, on dit sans transition, mais il y en avait bien une, avec Jeanne Moreau qui nous amène dans l'île de Philip Ken, puisque nous ouvrons le cours prévu de cette émission, singulièrement resserré ce soir. Mais pour parler de Crash Park, la vie d'une île, c'est la nouvelle création de Philip Ken en ce moment à l'affiche des Amandiers à Nanterre avant de partir en tournée internationale. On rappelle que Philip Ken est plasticien, scénographe, metteur en scène, auteur de spectacles, également directeur des Amandiers. Donc ce nouveau spectacle, c'est une poursuite, finalement, la poursuite d'une recherche qui mêle, comme toujours, érudition et loufoquerie, émerveillement, grotesque. Ça commence comme dans Lost, avec les rescapés d'un crash d'avion qui trouvent refuge sur une île. Donc ils vont tenter différentes rites initiatiques. On entendra aussi citer des grands textes sur l'insularité. Il y aura un bestiaire fantastique, il y aura des musiques. Les nouveaux arrivants, donc c'est naufragé. Il y en a quelques-uns qu'on a déjà connus dans les précédents spectacles de Philip Ken, notamment la fameuse Isabelle, qui est la star des spectacles de Philip Ken. Ils explorent différentes facettes de l'île. Ils ne sont pas vraiment ni placides ni passifs. Donc tout va pouvoir arriver. Premier regard sur ce crash park. Anna Segalevich.
Alors moi j'ai beaucoup aimé la mise en place de ce spectacle, que je trouve très belle, avec au départ un écran à cour et à jardin qui montre les futurs rescapés dans l'avion. On leur sert à manger, à boire, tout le monde est bien, c'est
un vol normal.
Un vol normal. Sauf que les stewards déconnent sec. Ouais. C'est-à-dire qu'ils picolent et ils ricanent entre eux, ça c'est. Voilà.
Mais c'est toujours comme
puis,
ça.
Je ne sais pas, je ne sais pas. Et puis ensuite, il y a dans la salle une maquette d'avion qui se promène, qui est portée par quatre personnes en blanc et une jeune fille qui envoie de la fumée. Mmh. C'est très simple, hein, mais c'est très beau. C'est ouais. vraiment, cette maquette est magnifique. Elle a des petites loupiottes rouges et elle a une façon de se promener en scène avec une musique.
En salle.
Avec une musique au départ qui est du piano, à laquelle s'ajoute du violoncelle, puis ça devient de plus en plus hollywoodien musique. Alors on est dans une sorte de grande fresque hollywoodienne avec cette maquette qui se déplace. Et puis ensuite on les retrouve, le rideau se lève. Et là apparaît cette île dont vous parliez, Arnaud, cette île avec quatre palmiers, avec des troncs d'arbres un petit peu.
Elle n'est pas grande, hein,
autour. L'île n'est pas grande, c'est un îlot. C'est un
combien
petit
de diamètre ?
J'aurais même un rocher.
5 mètres, non, de diamètre
maximum, peut-être. Ouais. On en fait et vite encore. Le tour. On a l'impression qu'on va pouvoir en faire vite le tour de cette île. Et donc, il y a une carcasse d'avion, une épave, un bout d'aile, dont vont s'extraire peu à peu.
Les,
ils ont du mal.
Après, les hublots, oui.
Ils vont s'extraire peu à peu de cette île. Et,
de cet avion.
De cet avion, absolument. Et puis, ils vont essayer de rejoindre cette île. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on voit au départ. Ça prend beaucoup de temps. Et il y a une première chose que je trouve très réussie, c'est à un moment donné, quand ils prennent conscience qu'ils sont en vie et qu'ils sont rescapés, ils se mettent à rire, à partir dans un éclat de rire complètement déchaîné. Ils font la ronde ensemble. Ils sont,
ça, c'est une 25 minutes à peu près après le début du spectacle.
C'est à peu près 25 minutes, ouais. Mais c'est le moment où le présent, en fait, arrive. Et c'est vraiment l'enjeu, à mon avis, de ce spectacle, c'est d'être totalement au présent, quand il n'y a plus d'échappatoire, quand il n'y a plus de perspective, quand on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, du coup, on est totalement au présent. Alors, au bout d'une demi-heure de spectacle, je me suis posé la question, mais où est-ce que ça va aller ?
Parce qu'il reste une heure et quart. Et là, trois petits points.
Trois petits points.
Parce que je reviendrai vers vous, Anna, vous le savez. Trois petits points pour passer la parole à Marie-Josée Sirache.
Oui, c'est-à-dire qu'on passe d'un endroit, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est-à-dire le début, extrêmement drôle, prenant, il y a du premier, deuxième, troisième degré, et on passe d'un endroit fermé à un endroit clos, qui est cet avion, à un autre endroit fermé, mais en plein air, qui est cette île, puisqu'elle est coupée de tout, il n'y a plus rien autour, avec un petit clin d'œil au taupe, je crois, parce qu'au départ, on la voit habitée par des taupes.
Oui, les taupes qu'on a connues dans les précédents spectacles.
Qui viennent, mais qui disparaîtront. Ensuite, on ne sait pas si elles sont exterminées ou pas. Enfin, en tout cas, elles disparaissent. Et cette île rappelle effectivement peut-être l'île de King Kong. Enfin, il y a quelque chose du cinéma hollywoodien, un peu fantasmé. Ça peut être l'incarnation d'un microcosme de toutes nos sociétés. Et on se dit, bon, que vont-ils faire, ces rescapés? Comment vont-ils se prendre en main, s'organiser ou pas? Effectivement, ils décident plutôt de pas trop s'organiser quand même, parce que ils vont pêcher, ils vont bronzer, ils vont faire des fêtes. Donc au milieu de tout ça, on entend des bribes de Homère, de Deleuze, des références à Jules Verne. Et j'ai le sentiment qu'on tourne en rond, pour le coup, dans cette île qui est elle-même ronde. Et c'est joliment fait, c'est agréable, mais au bout d'un moment... Alors, est-ce qu'il veut dépeindre la vacuité de nos sociétés aujourd'hui, transposées dans un milieu hostile ? Je sais même pas. Sincèrement, j'avoue que je ne sais pas trop.
Alors, hypothèse de Philippe Chevillé.
Alors, moi, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est que j'ai été quand même très séduit par le côté très joyeux de ce spectacle et partant d'un crash aérien quand même, très joyeux et avec des images. Bon, c'est un plasticien à la base, Philippe Ken, et on a des images assez fascinantes. Ce mélange de kitsch et parfois de tableaux de maîtres, de marines derrière, le nombre de justement de clichés de référence au roman d'aventure. On a quand même un volcan, on a une pieuvre géante qui est quand même scintillante et pas mal à la fin. Moi, je me suis pas ennuyé et beaucoup de fantaisie. C'est donc une forme, une fable, un divertissement. Quelque part, on peut le prendre effectivement comme un pur divertissement. C'est ça qui peut être gênant. Moi, ce que je pense du spectacle, c'est que l'originalité en fait du propos, s'il y en a un, c'est de montrer que au fond, justement, on ne va pas se retrouver dans cette île avec ce qu'on croit au début. D'ailleurs, il y a un personnage, on a l'impression qu'il va prendre la tête de l'île et qu'il va régimenter tout le monde, puisque c'est lui qui sauve un peu tout le monde avec une corde, etc. Et en fait, pas du tout. On assiste en fait à un côté très festif, un peu languide. D'ailleurs, on a les fausses bananes, on s'en nourri, les taupes effectivement sont parties, et puis on regarde à un moment donné, il y a le volcan, on regarde ça comme un feu d'artifice, et puis on fait la fête, on fait la disco, on crée un bar, une discothèque, et à la fin on finit en soucoupe volante. C'est donc une utopie des lendemains qui chantent, parce que justement on n'a plus aucune règle sociétale. Mais ça va pas tellement plus loin que ça, faut pas non plus exagérer.
Mais en même temps c'est bien, parce que moi j'ai quand même pas du tout vu la même chose que vous.
Ah bah c'est bien.
Et peut-être nos camarades non plus, parce que il me semble que la lecture la plus simple de cette fable théâtrale, c'est la propension de l'homme à toujours reconduire les éléments d'une société de divertissement. Alors même qu'ils, là, ils auraient l'occasion de se recentrer, de faire attention à l'écosystème dans lequel ils sont forcément plongés, où la nature aurait autant droit que l'humain, ce qui n'est pas le cas, puisque l'humain va à nouveau massacrer l'animal. Donc moi, j'ai l'impression que c'était plutôt une sorte de régression à laquelle on assiste, d'autant que tes derniers costumes, me semble-t-il, nous ramènent... 18e. Au 18e, alors c'est soit Pirates des Caraïbes, si on veut le côté merchandising, soit Robinson Crusoe pour ou L'île au trésor pour le mieux. C'est loin d'être mon spectacle préféré de Philippe Ken, parce que je trouve qu'on ne retrouve pas la dimension ludique, mais d'une certaine façon visionnaire de Swamp Club, qui était une réflexion pas et du tout inintéressante sur qu'est-ce que c'est qu'un lieu où on crée de l'art, ou alors la fantaisie, pour le coup, vraiment un peu délirante de La Mélancolie des Dragons, mais très poétique aussi, parce que dans Crash Park, moi, il me semble que tout est un peu trop appuyé. Alors, je comprends bien qu'il y a une question de la durée, de l'épuisement, et il y a d'ailleurs une très très belle séquence où on n'a pas dit que je ne sais pas si vous l'avez dit, que l'île est sur une tournette, donc tourne sur elle-même, et quand ils partent en exploration, les naufragés, ils tournent, et en même temps que l'île tourne aussi, ils tournent dans l'autre sens, et donc ça donne une durée assez belle, c'est assez beau, comme l'utilisation des musiques hollywoodiennes, parce qu'on aura effectivement le film d'aventure, le film d'horreur, le film d'épouvante, etc.
Italien, des années 70.
En fait, moi j'ai attendu le retour des taupes tout du long, voilà. Pour dire les choses comme elles sont. Anna Sigalevitch.
Et moi aussi, j'ai attendu le retour de taupes, je trouve que c'est extrêmement dommage qu'elles ne reviennent pas.
On les aime, nos taupes, nous.
Et oui, beaucoup. Et moi, j'ai vraiment ressenti à la fois ce qu'a dit Philippe et à la fois ce que vous dites, Arnaud. Je pense qu'il y a vraiment ces deux choses-là dans le spectacle. L'idée du présent qui me paraît fondamentale, ça c'est vraiment... voilà. Mais en effet, il y a quelque chose qui se dégonfle petit à petit et j'oserais même dire qui se banalise, en fait. Parce que la reproduction de cette société sur cette île, en fait, ils n'en font pas grand-chose. Ils se contentent d'être là, d'être ensemble et de s'adonner, effectivement. Alors, ça donne quelques moments qui sont intéressants. Il y a une chose que je trouve intéressante, c'est aussi l'utilisation de la musique, parce que finalement, la musique devient la métaphore des éléments extérieurs. Comme ils ne peuvent pas se projeter, comme ils ne peuvent rien anticiper, ils subissent les choses, et donc la musique, quand c'est un coup de Chopin, quand c'est un coup de Handel, ou quand c'est quelque chose de moderne, ils la subissent, et c'est elle qui induit en fait leur comportement et leurs humeurs, comme le tonnerre, la pluie ou le soleil.
Marie-Jo Desirache, un dernier mot sur Crash Park.
Oui, c'est peut-être une métaphore de la société des loisirs dans laquelle nous vivons, Disneyland, on a ça sous nos yeux, c'est peut-être ça.
Bon, voilà. Crash Park, la vie d'une île, on va vite parce que le sommaire est bouleversé aujourd'hui. Ce spectacle de Philippe Ken est à voir jusqu'au 9 décembre au Théâtre Nanterre-Amandier, puis tourné en décembre à Berlin, puis à Athènes, en février à Bruxelles, puis à Munich, et puis au mois de juin, ce sera Francfort pour ce spectacle de Philippe Ken. On va parler dans un instant de Sœur, de Pascal Rambert, et du spectacle d'Hideto Iwai.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute spectacle vivant, nouveau spectacle de Pascal Rambert, toujours très productif. Hein, c'est sa quatrième création en moins d'un an, après Actrice, Reconstitution et Nos parents. Cette fois, il s'agit de Sœurs, sous-titrées Marina et Audrey. Prénom de ses deux interprètes, Marina Hans et Audrey Bonnet. Un spectacle né du fait, dit Rambert, de les voir répéter ensemble la pièce Actrice, deux sœurs donc, et toute la violence et tout l'amour qu'il peut y avoir entre elles.
Tu ne viens pas sur mon lieu de travail, je t'ai suffisamment toléré.
Toléré ?
Ouais, toléré. Depuis ta naissance.
Depuis ma naissance, c'est intéressant.
Ouais, c'est intéressant, très intéressant. Alors tu reprends tes affaires et tu sors. Tu m'entends ? Je suis spécialement fragile en ce moment.
Spécialement fragile ?
Spécialement fragile, oui.
Tu ne crois pas que moi,
voilà,
que...
Je ne crois pas.
Que tu ne penses pas, ce n'est pas quelque chose qui t'arrive à l'esprit. Que moi aussi, pourquoi pas, tiens, je pourrais aussi être très fragile comme toi. Oui, il n'y a que toi qui peut, qui doit, qui évidemment, en toute légitimité.
Légitimité ?
Légitimité, oui. Tu n'es pas celle qui a revendiqué cela toute ta vie. Ta légitimité en tout. afficher ta légitimité en tout. Depuis enfant, ta façon, assez épouvantable, je dois dire, de punaiser partout et à chaque instant, dans chaque manière récurrente, de poser ton corps dans l'espace, dans chaque parole, dans chaque action, tes actions si sensibles, si bien posées, au bon moment, tes allures de pendre, papa.
Sors ! Sors, je te dis ! De quel droit tu viens ici ? Comment tu me trouves ? Comment on arrive jusqu'à moi tout en sueur, la bouche pleine de fiel, la valise à la main ? Tu as planté une balise dans mon dos ? Tu as planté tes dents ? Celle que tu veux me planter dans la peau depuis que tu es née ? Ah, cette manie de me haïr ! D'avoir décidé que personne, personne ne pouvait vivre avant toi, que tu étais la première, incapable d'arriver en deuxième.
Marie-Josée Sirage, après cet extrait, c'est gnant.
Oui, c'est l'entrée en matière d'ailleurs du spectacle, c'est le tout début du spectacle.
Moi je n'ai pas encore vu ce spectacle, donc je suis tout ouïe.
On est effectivement saisi par la violence qui est très haut placé d'entrée de jeu. Donc c'était Marina Hans qu'on a entendu et Audrey. Mais comment dire le spectacle, parce que cette histoire de sœurs qui se détestent, qui se haïssent depuis l'enfance, qui à la mort de leur mère n'arrive pas à trouver de terrain de réconciliation. Moi, ça me laisse non pas de marbre, mais ça. C'est parce qu'on y retrouve d'abord. Il y a deux actrices qui sont extrêmement bien, qui basculent dans la transe. Hein, d'ailleurs, c'est quand même physiquement ce qu'elles portent, c'est assez impressionnant. Pour moi, là où ça pêche beaucoup, c'est le texte. C'est-à-dire que pour quelques éclats à certains endroits, tout le reste, je trouve, est quand même cousu de fil blanc, avec des poncifs un peu psychanalytiques sur la fratrie, la jalousie, la rivalité. En plus, avec un peu des caricatures, l'une est sportive, l'autre est plus intellectuelle, sur l'engagement, sur le rapport à la mère, au père. Enfin, ouf, moi, je suis restée un petit peu à côté de ce spectacle.
Philippe Chevrier, je sais que ça n'est pas été votre cas.
Alors moi, oui, je suis totalement de l'avis contraire. En fait, moi, ce spectacle m'a totalement bouleversé. Je considère que c'est même un des spectacles les plus marquants que j'ai vus ces dernières années. C'est-à-dire que je ne savais pas à quoi m'attendre après le point de départ de ce spectacle, puisque le fait que Rambert ait vu donc ces deux actrices qu'il avait en répétition et qu'il eut envie de faire un texte n'était pas la garantie qu'on ait un bon texte. Ça pouvait être un prolongement d'actrice, un spectacle que j'ai par ailleurs aimé, mais qui n'est peut-être pas son plus grand texte. Et là, je trouve qu'il a réussi à faire quelque chose, un texte qui, à mon avis, est d'une force, d'une violence inouïe, à réussir à justement mêler cette détestation des sœurs qui, la détestation, c'est jamais très loin de l'amour, en mêlant dedans une histoire de le monde d'aujourd'hui, la violence du monde. C'est-à-dire que d'un côté, on a une des sœurs, l'aînée, qui travaille dans l'humanitaire, de l'autre, on en a une qui est... On soupçonne qu'elle est journaliste et qu'elle fait donc des écrits.
Elle est clairement critique.
Critique, oui. Et qu'elle fait des... Non, mais je dis on soupçonne parce que...
Ah non, c'est dit.
Non, c'est dit. Mais ce que je voulais dire justement sur ce soupçon, c'est que ce qui est très bien dans le texte, c'est que les choses ne sont pas dites d'emblée, qu'on les découvre et que ce texte donc a un côté organique qui est fort. Et parallèlement à ça... Il y a une dimension qui est absolument inouïe dans ce spectacle, c'est quand même la performance des comédiennes. Allez me trouver des comédiennes de ce niveau, pourtant on en voit des excellentes. Ce que j'ai vu ce soir-là, moi, le soir de la première, et d'ailleurs, c'est pas seulement, je me suis renseigné, le soir, les gens sont debout à applaudir, il y a des gens, moi j'étais en larmes à la fin du spectacle. Donc pour moi, c'est un des spectacles qui m'a le plus touché de ces dernières années, et à la fois parce que je trouve que ce texte a une force, une puissance, et surtout parce qu'il est joué par ces comédiennes, sur en plus un tempo et sur une force, et pendant une heure et demie, elle ne lâche pas. Et à chaque fois, en plus, ce qui est incroyable, c'est quand on a Audrey Bonnet qui est magnifique, on se dit mais Marina Hans, après, elle va pas réussir à atteindre ce niveau. Et ben elle a la même force, la même puissance jusqu'au bout, jusqu'à cette fin extrêmement brutale qu'on n'attend pas, que je raconterai pas parce que je raconte toujours les fins, mais là, je le ferai pas exceptionnellement. Et donc, voilà. Donc, vous voyez, je suis assez enthousiaste, mais vraiment,
Je sais que ça vous a bouleversé. Hein. Voilà. Je vous ai lu sur les réseaux sociaux.
Oui, pourtant, j'essaie d'être discret, mais.
J'ai pas pu résister. Anna Segalevitch, qu'on n'a pas entendu sur Sœur de Pascal Rambert.
Alors, sur Sœur, moi, je suis vraiment partagée sur le spectacle parce que je suis partagée entre ma réception, ma perception du récit, en fait, pendant qu'il se jouait, de l'histoire et des personnages et ma perception des actrices en scène. C'est comme si j'avais eu une double perception du spectacle. Parce qu'en fait, donc, Pascal Rambert, il a une façon de nous, dans ce spectacle-là et dans certains autres, de nous coller au mur, puis de nous retourner, qui, moi, me met complètement à distance, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression de plus avoir d'air. Et donc, plutôt que de me prendre aux tripes, ça m'éloigne complètement de ce qui se joue. Et ça ne me touche pas, en fait, parce que du coup, je vois les contours, l'articulation, je vois quand les choses vont se retourner. Enfin, j'observe, en fait, ce qui est en scène, comme si j'étais moi-même un animal froid à observer la dissection d'un objet théâtral. Vous voyez, c'est un sentiment très étrange que j'ai, mais c'est pas la première fois que je ressens ça avec les spectacles de Pascal Rambert. Donc du coup, ça ne me touche pas. Et en même temps, je dois dire que ce qui m'a beaucoup, j'ai été intéressée pendant tout le spectacle en même temps. Je me suis pas du tout ennuyée. J'ai regardé avec énormément d'intérêt Marina Hans et Audrey Bonnet. Et là où je parle de ma double perception, c'est que je ne dirais pas que les personnages m'ont touchée, mais la façon dont ces deux actrices-là sont ensemble sur le plateau. Vous dites, Philippe, vous parlez de performance, bien sûr. Alors, on peut dire d'abord objectivement performance, engagement total, monstre, rencontre au sommet, etc. Mais je trouve que c'est encore autre chose qui se joue, et c'est ça, là, pour le coup, qui me touche, et le spectacle m'est resté après, et la façon dont elles saluent toutes les deux à la fin et dont elles se touchent, franchement, c'est vraiment émouvant. Parce que Marina Hans dit une chose qui est très simple, elle dit que c'est la première fois de sa vie qu'elle a le sentiment d'être en sécurité, réellement en sécurité, qu'elle a jamais connu ça avant, quand elle est en scène avec Audrey Bonnet. Et ça touche à la justesse d'un rapport entre deux sœurs, qu'ils soient haineux, amoureux, etc. C'est une façon d'être au monde ensemble qui ne ressemble à aucun autre rapport. Moi, j'ai une sœur, on est deux sœurs, et j'ai ressenti ça très très fort, et elles arrivent à transmettre ça. Donc, c'est quand même pas rien.
Marie-Josée Sirach, après avoir entendu des louanges totales et des louanges avec réserve.
Non, moi je continue à penser que de toute façon, ce que je peux reprocher moi à Pascal Rambert, c'est toujours le même dispositif cynique, toujours le même affrontement, toujours partir sur la profération. Donc effectivement, là où les emmènent les actrices, on voit bien, on a un regard qui arrive à déceler que quand même ils les poussent dans leur retranchement, ça c'est évident. La performance d'elles deux est à saluer. Mais ce qui ne suit pas, pour moi, c'est le plein feu, ces chaises-là qu'on met de toutes les couleurs,
le texte.
Moi, je suis d'accord avec Marie-Josée, pour moi,
à Marie-Josée, il y a quelques moments d'éclat, mais je trouve que le texte, on le voit venir, parce que, il prend le contre-pied à chaque fois de ce qu'il met en place, mais ça devient un système.
Oui, parce qu'on se dit, et là, elle va lui dire quoi.
Exactement.
On finit par une parole à la défense, Philippe Chevalier.
Vous êtes forte si vous avez deviné tout ce qui allait se passer dans le texte. Moi, je suis désolé, mais surtout, en plus, il fait pas toujours la même chose. Je suis désolé, mais c'est une histoire économique. Il y a eu Contrôle de l'amour. Ça ressemble beaucoup à Contrôle de l'amour. Sauf que
Contrôle de l'amour, c'est pas mal.
Clôture de l'amour.
Alors, mais c'est pas la première fois que je la fais. Psychanalyse.
C'est pas la première fois que je la fais à cette antenne. Hélas.
D'accord.
Bon, mais voilà, Contrôle de l'amour. Et moi, je trouve simplement, quand on voit quand même beaucoup de propositions et de textes contemporains, que c'est quand même une écriture qui est quand même une langue qui est assez incroyable et en plus qui nous mène encore une fois sur un terrain où parfois c'est feutré. Là, on n'est pas dans la relation feutrée, on est dans une relation frontale de deux femmes, une fusion vraiment atomique. Et ce que vous disiez est très juste, c'est-à-dire qu'à la fin, on a l'impression que toutes les deux, il y a une fusion des deux comédiennes qui a justement cette émotion-là, c'est par elle qu'elle passe.
Il y a notamment un moment qui est très beau, quand il n'y a pas de texte, quand elles sont toutes les deux, à un moment donné, Audrey Bonnet n'en peut plus, elle dit « je suis fatiguée, là j'ai envie de danser », et elles prennent chacune un écouteur,
c'est le plus beau moment.
Et leurs deux têtes, elles ont ces chevelures châtains, toutes les deux les cheveux lâchés sur le visage, c'est comme un monstre à deux têtes, là c'est vraiment une figure de tragédie grecque, il y a quelque chose comme ça d'ancestral, d'archaïque, qui est très très beau, et elles commencent à faire un petit peu des mouvements et à danser de plus en plus ensemble. Ça, c'est quand même un moment très fort, je trouve, du spectacle.
Sœur, texte et mise en scène de Pascal Rambert à l'affiche du Théâtre des Bouffes du Nord à Paris jusqu'au 9 décembre. Prochaine date prévue. Mais il écrit tellement vite, Pascal Rambert, que les théâtres n'ont pas toujours le temps de programmer. Ça va tourner, j'imagine, la saison prochaine. En tout cas, là, on pourra le voir aussi le 22 janvier au Panta Théâtre de Caen.
France Culture, La Dispute, Arne Laporte.
Le dernier spectacle à notre sommaire, c'est Waré Waré No Moro Moro. Nos histoires de Hideto Iwai, en ce moment à l'affiche du théâtre de Gennevilliers. Alors, on avait pu voir à Paris un précédent spectacle du japonais, le Hikikomori sort de chez lui. J'avais appris pour l'occasion ce mot japonais qui désigne donc les personnes qui vivent recluses chez elles parce qu'elles sont, ont une phobie sociale. Hideto Iwai a été un hikikomori avant que le théâtre ne le sauve. Et depuis, bah, non seulement il sort, mais il va à la rencontre du monde. Et c'est le cas ici avec ce premier spectacle qu'il crée en français, puisqu'il a rencontré les acteurs et les amateurs français. Et ça a donné ce spectacle.
Maman, tu sais pas, Chantal Goya a été assassinée. Elle a été tuée par un routier à coup de couteau. Ma mère est choquée. C'est pas vrai! Elle avait l'air vraiment impressionnée. Après, on part dans le village pour faire des courses et on passe à la maison de la presse où ma mère achetait tous les jours le journal pour mon père. Pendant que ma mère discute avec les adultes, je feuillette des magazines, tranquillement. Quand tout à coup, je l'entends prononcer cette phrase épouvantable. Chantal Goya a été assassinée cette nuit par un routier. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Elle est en train de leur raconter toute l'histoire. Je suis horrifiée. Je ne bouge pas, je n'ose rien dire. Je la laisse faire tout en imaginant la suite. À l'époque, je suis persuadée que le monsieur qui vend les journaux est aussi celui qui fait le journal. Qui l'écrit. Oh là là. C'est terrible. Cette nuit, il va écrire.
Chantal Goya a été assassinée par un routier.
Et tout le monde va le lire. La France entière va le lire. Et encore pire, quand on va savoir que c'est moi qui ai inventé toute cette histoire, mon nom va paraître dans le journal.
Chantal Goya n'est pas morte. C'est une petite fille du nom de Salima Goodball qui a menti. Elle aurait inventé toute l'histoire.
Je laisse les adultes discuter entre eux en essayant de ne rien laisser paraître de cette peur insoutenable qui me tenaille. En rentrant à la maison, je mets quand même un peu de temps avant de trouver le courage d'aller voir ma mère pour lui dire la vérité.
Voilà pour cet extrait de ce spectacle de Hideto Iwai à l'affiche du théâtre du Gennevilliers, Ware Ware no Moro Moro. Nos histoires. Philippe Chevillier va commencer.
Vous aimez bien le titre, Arnaud?
Oui, c'est, moi j'aime c'est bien.
C'est
ouais.
Drôle,
Arnaud. Ouais. Je m'y risquerai pas trop à le dire trop souvent, j'ai peur de faire des bêtises. Je me suis calmé déjà depuis ma précédente intervention. Le spectacle m'a un peu calmé aussi, c'est-à-dire que je n'ai pas été totalement convaincu par ce spectacle. Je le trouvais intéressant, souvent touchant, mais pour moi, il est quand même inabouti. Alors, les histoires sont puissantes, hein. Elles sont fortes, elles peuvent être très drôles, elles sont originales, elles sont étonnantes. Ce sont évidemment des histoires vécues, portées par les personnages, donc c'est très passionnant. Et puis, tout, évidemment, tourne autour de la famille, des violences faites à l'enfant, des traumatismes de la famille. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il essaye, dans ce spectacle, aussi de les conjuguer avec la violence sociale, la pauvreté, le racisme, l'exil, puisqu'on a notamment le personnage d'Abdallah, qui, originaire du Maroc, est devenu militant CGT, qui raconte toute son histoire, et c'est passionnant. Alors, je me suis surpris à regarder ma montre de temps en temps. C'est un spectacle qui dure 2h20 et je me dis, mais pourquoi ça marche pas si bien sur moi? Je pense que les histoires qui sont plutôt bien conçues et bien croisées entre elles, hein, parce que il y a un montage qui est intéressant, mais elles sont pas toujours bien racontées. C'est-à-dire que je trouve que ça se dilue par moments. Et que du coup, on perd un petit peu de l'intérêt. L'exemple type, c'est même par exemple la première histoire, l'histoire du fabricant de fantômes, qui a un très bon démarrage, une fin magnifique, mais entre-temps, il se perd un petit peu dans cet appartement, je trouve, où un peu fantastique, on perd un peu le fil. Et puis, surtout, alors ce qui m'a gêné, en fait, fondamentalement, c'est que je ne suis pas très sensible à la mise en scène et à cette chorégraphie constante des personnages avec un décor qui est un décor peut-être inspiré aussi de l'esthétique japonaise et aussi un peu d'Arte Povera avec tous ces avec beaucoup de d'oreillers, de draps blancs,
et de sopalins.
On est dans à la fois dans le foyer et en même temps dans les fantômes, hein, sans arrêt des formes de fantômes, et ils bougent tout le temps et parfois c'est un peu gesticulatoire. Je sais pas si ça se dit gesticulatoire, en tout cas ça gesticule et ça m'a pas ces moments-là, justement, c'était un peu en parasité pour moi certains beaux moments du texte, voilà. Donc, à la fois, j'ai été touché parce qu'il y a des moments, le petit couple, par exemple, de Lucienne, de Michel Larue, un vrai couple qui est de Gennevilliers, c'est l'histoire, elle est géniale, on a envie de la réentendre 10 fois. Mais sur la longueur, j'ai eu des moments de baisse d'attention et j'ai trouvé ça un peu long et ça m'a pas autant ému que d'autres spectacles.
Anna Segalevitch, je voulais dire le titre du spectacle.
Ah oui, Waré Waré, No Moro Moro. Nos histoires, voilà, projetées sous les yeux. Alors, moi, c'est un spectacle vraiment que je trouve d'une originalité folle, très 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 particulier. Je suis passée par 1000 sentiments et états en voyant le spectacle, qui effectivement est très long, hein, vous avez raison Philippe, 2h20, et il y a des vraies longueurs. Mais moi, vraiment, c'est un spectacle que je veux défendre et que je veux soutenir, parce que ce qui me reste de ce spectacle me plaît énormément. Alors, il y a un mélange des genres invraisemblables entre la rencontre ou la non-rencontre, hein, d'ailleurs. Mais moi, j'aime bien l'échec aussi de la non-rencontre entre la culture japonaise et la culture française, par moments, sur le plateau. Entre le mélange de... Il y a 4 acteurs professionnels et 3 acteurs amateurs qui sont de générations aussi totalement différentes. Pour moi, ce spectacle, c'est un mélange de Depardon, de Piala, Antoine en parlait tout à l'heure, d'Ozu et de Koreïda. C'est-à-dire qu'on se dit, mais comment tout ça va être mis ensemble? C'est complètement
c'est bien résumé.
Voilà. Donc, mais j'ai vraiment... ressenti ça. C'est un spectacle qui est sur une ligne de crête avec des moments où on se dit mais c'est pas possible de faire du théâtre amateur comme ça. C'est un atelier de théâtre, c'est embarrassant. Et hop, on est rattrapé et ce qui reste de ce spectacle est très très beau parce que en fait c'est complètement autre chose qui est en jeu qu'un bon acteur ou un bon acteur et une bonne scène ou une mauvaise scène. C'est pas ça. Il faut oublier une forme d'efficacité théâtrale et se laisser aller à l'écoute de cette mise en scène, de cette forme d'expression qui est d'une, pour moi d'une sensibilité extrême. Et il y a une façon de poétiser le réel qui est très très belle et de rendre l'intime universel. Parce que ce qu'il faut dire qui est très important, c'est qu'effectivement il y a toutes les histoires de chacun. Mais chaque histoire est racontée par une personne, mais est aussi racontée par les autres qui l'entourent. Et il y a une façon d'être ensemble aussi en scène, de protéger les autres, d'accompagner leurs récits et chacun d'une douceur et d'une délicatesse que je trouve très rare au théâtre, qui là est faite d'une façon qui est sans aucune mièvrerie, qui est d'une grande naïveté, qui est presque brutale par moments, et c'est ce qui me plaît beaucoup.
Du coup, cette dimension chorégraphique, si je puis dire, qui embarrassait Philippe, vous y adhérez?
Elle me gêne pas, oui, ouais, j'y adhère.
Marie-Josée Sirache.
Non, elle me gêne moi non plus, d'autant plus que cette façon qu'ils ont de trimballer leurs histoires avec ce drap blanc, avec ces oreillers, en général on dit on se trimballe nos valises de névrose, et là ce sont des oreillers, donc il y a le côté plus doux, et c'est en permanence, et je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit Anna, c'est-à-dire que ça a été une surprise ce spectacle, magnifique. Moi je me suis dit, mais comment il a pu rencontrer ces gens-là, les amener à se raconter, à se dévoiler, c'est très très intime, mais en même temps très pudique. C'est à la fois, il y a de l'art japonais, c'est-à-dire ce dédoublement où c'est l'autre qui va raconter l'histoire de son voisin. Enfin, c'est vraiment très très joliment chorégraphié. C'est vrai que c'est un tout petit peu long, mais ça va se resserrer, je pense. Et cette façon cette attention qu'il porte aussi bien aux professionnels qu'aux amateurs, comment il les emmène, on sent qu'il prenait confiance. Moi, j'étais le soir de la première, je crois, qui se sentait de mieux en mieux dans cet espace délimité. C'est des tasseaux de bois qu'on bouge, qui glissent. C'est très très simple, c'est très beau. Moi, j'ai été émue, mais à plusieurs endroits, je me suis vue pleurer. Mais en dépit de, voilà, je sais pas, quelque chose se noue. Il raconte la vie de gens simples. C'est des tranches de vie avec des gens qui ont un passé, une histoire qu'on n'entend pas, qu'on voit plus nulle part. Et tout d'un coup, il les expose lui avec son regard totalement étranger. Et je trouve que l'attention qu'il leur porte les met en valeur, leur rend toute une dignité perdue.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Philippe Chevillier ?
Non, je ne vais pas détruire cet enthousiasme, mais simplement, j'ai l'impression, encore une fois, que il y a d'autres pièces quand même. On voit des histoires racontées avec des gens, avec aussi des amateurs. On a déjà vu
oui,
ça.
Mais oui, généralement, c'est quand là, même c'est très raté aussi.
C'est ça, mélange des documentaires, là, par exemple. Il y a beaucoup de poésie.
Mais je pense toujours qu'il y a quand même une forme qui est quand même relativement sophistiquée derrière, qui est ce jeu, ce ballet chorégraphique, qui, moi, m'a absolument pas touché, quoi. Donc, après, c'est vrai qu'après, j'ai des moments avec les personnages, avec Abdallah, avec, encore une fois, Lucienne et Michel. Bon, et on commence par être bouleversé, mais j'ai eu des... C'était un peu en dents de scie et je suis resté un petit peu extérieur au spectacle. Voilà, c'est alors que tout aurait dû me plaire. Enfin, ce principe-là, il me plaisait à la base. Donc, vous voyez, c'est comme ça.
Anna, si vous voulez dire un dernier mot.
Oui, il faut le laisser le mot de la fin.
Non, je comprends
très bien. Expériences comme celle-là, on en voit régulièrement et c'est très bien. Les théâtres tentent ce genre de propositions. Il faut quand même, je rappelle, c'est un Japonais qui vient pour la première fois créer avec des Français en France. Et donc, c'est quand même, je pense que c'est à la fois, je pense, la qualité du spectacle et en effet sa difficulté d'élaboration, parce que ça rajoute de la complexité dans la création.
La complexité et puis l'exotisme qu'on accepte quand c'est des Japonais qui le font, quand ça vient de
Corée,
de Français, on l'accepte pas, la naïveté, on l'accepte pas de la même façon.
Vous avez raison.
Il faut lâcher des choses, c'est particulier.
C'est particulier. Allez voir Ware Ware no Moro Moro, nos histoires de Hideto Iwai, c'est jusqu'au 3 décembre seulement au théâtre de Gennevilliers, c'est dans le cadre du festival d'automne à Paris. Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec Sarah Dion qui nous a rejoint, qui nous rappelle la question du jeu de vendredi soir d'abord et nous donne sa réponse, Sarah.
La question était: quelle activité pratiquait-on au Palais de Glace, l'actuel théâtre du Rond-Point à la Belle Époque? Et la réponse est le patinage.
Ce soir, des invitations à gagner pour la rétrospective Bernard Venet. C'est au Musée d'art contemporain de Lyon, exposition à voir jusqu'au 6 janvier. Quelle est la question?
Dans quel département français trouve-t-on la fondation Bernard Venet?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel on peut réécouter nos émissions et s'abonner au podcast. Demain à 19h, une dispute musicale avec Sophie Rosemont, Hugo Cassavetti et Joseph Gosselin. Notre programme en amont d'Alain Bachung, Yone de Bill Ryder Jones, un coup de cœur de Joseph Gosselin pour l'ensemble de Midori Takada, et puis le petit salon de Lucille Como avec cette question après le fiasco, entre guillemets, de Laurie Neal, aller au concert de son idole.